There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Postscriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
C'était vraiment une relation intense et dans le super et dans le très très nul. Enfin, et dans le très joyeux et dans le très dramatique. Je sais pas, un exemple où on s'est pas vu depuis très longtemps, il vient à Marseille, on a juste une nuit à passer ensemble, et je me réjouissais à l'avance qu'on passe cette soirée-là, tous les deux tranquilles à l'appart. Et il est parti prendre une douche, et à un moment je l'ai rejoint dans la salle de bain. Et là, il était, dans mon souvenir, assis sur le bord de la baignoire, très mal, en disant « j'ai eu froid, et quand j'ai froid et que je suis mouillée, ça me rappelle la prison ». Bah du coup t'as plus trop envie de te marier quoi. Et à partir de ce moment-là, ton fantasme de soirée en amoureux est ruiné. Mais ça faisait partie des choses, ça revenait souvent, ce décalage-là absolu.
Lettre sonore numéro 66.
Lettre sonore numéro 66.
Cher amour d'exil.
Cher amour d'exil.
Cela pourrait être un scénario de film. Elle est française, blanche, issue de la classe moyenne, diplômée et libre. Il est, comme il le dit lui-même, un enfant du désert. Son exil est celui d'un homme qui fuit la guerre dans son pays et qui se sent limité chaque jour par son statut de réfugié.
Lily et Nisa ne sont pas un couple, mais tous les deux vivent ou ont vécu un amour d'exil. Dans cet épisode, ils s'adressent à leur conjoint ou à leur ex-conjoint et racontent la beauté de leur union, mais aussi le fossé qui les sépare. Ils révèlent ici ce qu'ils ne peuvent pas toujours se dire en face ou s'avouer à eux-mêmes.
Quand deux réalités sont aussi éloignées, comment se rapprocher? Comment vraiment s'aimer? Est-ce même possible? Lily a 30 ans. Elle a vécu deux histoires d'amour, d'abord avec un homme kurde, et plus tard, un autre, syrien.
Nizar a 32 ans, il a quitté un pays qu'il préfère ne pas citer pour préserver son anonymat et vit en couple depuis 4 ans avec Charlotte, une Française.
Je grandis dans un petit village à 300 km de la capitale de mon pays, un pays qui se trouve au Moyen-Orient. Je suis l'aîné de 5 enfants, 3 frères et une sœur. Moi, je viens d'un milieu assez mixte, on peut dire. Ma mère ne sait pas ni lire ni écrire. Mon père était ingénieur de pétrole, qui avait un homme, on peut dire, un homme réussi, un homme qui a construit sa vie tout seul, plus ou moins. Mais aussi, voilà, mon père, c'était un militant du Parti communiste dans mon pays. Et c'est un peu mon idole. Comme je dis toujours, mon père, c'est mon premier amour. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Et je suis venu en France en tant que boursier. Et mon projet de vie, c'était de venir en France, avoir un master, revenir travailler au pays. Et c'était le Parlement qui a imposé ça aux entreprises étrangères, de faire des bourses aux citoyens, et le but, au bout de 20 ans, 15 ans, le pays soit à 100% autonome. Ma bourse était financée à 50% par Total et à 50% par le gouvernement de mon pays. On est dans un pays où on a beaucoup de richesses de pétrole et de gaz. L'idée, voilà, c'est de venir étudier en France et après revenir au pays, travailler chez Total, avoir une famille, rester à côté de mes parents et tout. Il y avait ce rêve.
«
fin 2014, début 2015. Une guerre s'éclenche dans mon pays et Total ferme et part du pays. Et le gouvernement aussi, on peut dire un gouvernement qui a pris la fuite et qui a fait faillite. Donc je reçois un email comme quoi on ne peut plus financer tes études. Ça faisait 4 ans que je suis en France. Donc j'ai deux choix. Ou je rentre chez moi, sans diplôme et aussi dans un pays en faillite, en guerre et tout, divisé. C'est-à-dire je reviens au pays, je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que il n'y a rien à faire, à part mourir ou participer à la guerre. Moi, je ne veux pas ni l'un ni l'autre. Donc je reste 2 ans dans cette incertitude, angoisse, ne pas savoir quoi faire avec la dépression et tout. Et après, à la fin, je décide de demander l'asile. C'est parce que aussi de mon statut, de ma situation, moi je suis menacé dans mon pays, je suis athée. Et les dirigeants ou bien les gens qui ont pris le pouvoir, c'est des extrémistes. Et j'ai eu aussi, mon frère, il a eu une lettre comme quoi je serais bien reçu à l'aéroport. C'est une lettre de menace.
Et ça, c'est ton frère qui a reçu ça ?
Il a reçu. Et moi, je me suis dit, ça, c'est vraiment dur pour moi. Ça m'a un peu aidé à décider de demander l'asile.
J'ai grandi dans un petit village au sud de la Seine-et-Marne, plutôt à la campagne. Et puis après, mes parents se sont séparés. Et là, j'avais du coup une semaine la maison à la campagne et une semaine un appart en ville. Dans une petite ville à Fontainebleau. Mon père, il était ingénieur, et ma mère, jusqu'à mes 10 ans, elle n'a pas travaillé. Elle ne travaillait plus, ou alors des petits boulots, et après elle est devenue libraire, puis médiathécaire. On était privilégiés, c'est sûr. C'était une grande chance d'avoir une maman qui ne travaille pas, de ne jamais trop se poser la question de l'argent, je pense. J'ai grandi dans une maison ouverte, où on accueillait souvent du monde, et où on partageait ce qu'on avait. Quand j'ai eu le bac, je suis partie ensuite faire une prépa littéraire à Avignon. Et après, je suis partie en voyage pendant un an, en stop, sans avoir vraiment de plan précis. J'étais à l'époque avec mon amoureux. On n'avait absolument aucun programme, ni durée, ni destination, rien du tout. Et on est parti un an, le plus à l'est qu'on ait été, du coup c'est le Kyrgyzstan. Avec ce voyage, je sais pas, j'ai appris plus que pendant mes 3 ans de fac. T'as 20 ans, le monde t'appartient, quoi.
Je fais ma demande d'asile, je reçois la décision assez rapidement. Ça a pris 7 mois en tout. Jusque-là, j'avais une visa étudiant, mais les 2 dernières années, j'avais pas. J'avais une carte de séjour expirée. Je reçois la décision en juillet, le 13 juillet de 2018. Et voilà, j'ai un statut de réfugié. Et là, je commence à vouloir continuer ma vie. Et donc, je cherche du boulot déclaré. Parce qu'avant ça, c'était du boulot alimentaire non déclaré. Et je commence mon premier contrat de barman en 1er janvier 2019. Et après, je rencontre ma conjointe, Charlotte. Je l'ai rencontrée fin 2019. Au début, on était amis. Moi, je donnais des cours de rap classique et littéraire pour des chercheurs. Donc, c'est comme ça, je rencontre Charlotte. Je pense que c'est son intelligence qui m'a attiré le plus. À part le fait qu'elle est quelqu'un de très belle et... Elle vient d'un milieu intellectuel français. Elle est prof à la fac, en Sciences Po. Les parents habitent à Paris. Ma compagne aussi vient d'une famille communiste, militante française. Pendant le confinement, on part se confiner ensemble avec deux copines à elle. On était 4. Et petit à petit, on commence notre histoire. Au début, on pensait que ça va être peut-être une histoire éphémère, une petite histoire de confinement, qui commence par le confinement, qui finit vers le confinement. Mais au début, on ne savait pas quand est-ce que le confinement va finir. Personne ne savait. Mais ce qu'elle cherche à moi, je pense qu'elle cherche quelqu'un qui la respecte, qu'elle aime et qui est engagé. Je pense les manifs, je suis quasiment dans toutes les manifs et j'ai pas de différence des manifs. C'est une manif LGBT, j'y suis. Une manif pour la loi de travail, même si je suis pas français, j'y suis. Une manif pour Palestine, j'y suis. Une manif pour un truc qui existe dans le monde. Je sens que ça m'en fait mal là où ça fait mal à quelqu'un. Je me sens vraiment, tout le monde, c'est mes frères et mes sœurs. Donc je pense que ça lui plaît le fait voilà, que je me trouvais tout le temps dans des manifs différentes.
Elle aussi, elle manifeste.
Elle aussi, elle manifeste. C'est comme ça, on se croise aussi. Et voilà, on a ça, on a politiquement, on se ressemble. Donc on s'est lancés tous les deux. Et donc c'était intense, c'était un grand amour. C'est un grand amour toujours.
Moi, j'avais été très marquée pendant ce long voyage-là. On était restés 3 mois en Turquie. Et moi, j'avais adoré la Turquie. Et j'y suis retournée toute seule pour aller revoir ces gens avec qui on avait passé du temps 5 ans avant. Prendre des nouvelles aussi, parce que le pays avait changé, quoi. On lisait les infos, le coup d'État. Donc j'avais envie de retourner voir comment ça se passait là-bas. J'ai rencontré ce mec en Turquie. Et va savoir pourquoi on est tombé amoureux. C'est très absurde, parce qu'on parlait pas du tout la même langue. On se comprenait, je pense, peu ou mal ou pas du tout. Il s'appelait Kejo et on s'est rencontrés via une amie en commun en Turquie. Il était journaliste, kurde, mais il avait fait de la prison. Il faisait des films documentaires. Et là, il était dans cette petite ville, c'est vraiment une petite ville balnéaire, avec des oliviers partout. Il était assigné à résidence dans cette ville-là. Il avait fait de la prison pour des raisons politiques. Et puis après, il était parti faire ce film dans le nord de la Syrie. Il continuait à avoir des projets de films, mais son boulot, c'était de ramasser les olives à ce moment-là. On s'appelait hyper régulièrement, on s'écrivait beaucoup, et puis à chaque fois que j'allais en Turquie, on passait du temps ensemble. Moi, j'ai le souvenir qu'on passait des soirées à discuter, que quand j'étais en France, on passait une heure à s'appeler tous les jours. Et aujourd'hui, je suis incapable de savoir ce qu'on se disait, parce qu'on était quand même deux personnes qui... Je parle pas du tout la même langue. Je me rappelle être dans mon lit avec mon petit dictionnaire, tu vois, pour essayer de dire un mot, mais je pense que je devais dire un mot et il devait s'imaginer tout le reste que ce que je voulais dire. Et moi, je comprenais un mot de ce qu'il me disait et je me faisais dans ma tête la phrase qu'il avait sûrement voulu me dire. Sur un an, je pense, j'y suis allée 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois. J'ai appris le turc très vite parce que j'adore les langues. J'aime beaucoup apprendre des langues et du coup, ça va assez vite. Et puis, j'avais pas le choix. Enfin, si on avait envie de communiquer, c'était en turc. C'était évident que lui apprendrait jamais ni l'anglais ni le français. Mais il y a aussi plein de moments où j'adorais rien comprendre, quoi. Où j'adorais être dans des soirées où on buvait des bières jusqu'à hyper tard et où je comprenais rien. J'avais l'impression d'être une petite souris à regarder un monde qui n'était pas le mien. Tu rencontres des gens qui sont en train de vivre une révolution. Ils étaient tous kurdes. Et qui sont donc sont en train de subir une répression énorme et qui se battent pour une révolution et qui sont prêts à tout donner pour cette révolution. Mais un jour, je leur avais dit, moi, j'aimerais trop avoir un truc comme vous auquel je peux croire dur comme fer sans jamais douter et en pensant vraiment que ça va changer. Et ils m'avaient regardé en disant, mais toi, t'es trop bizarre parce que t'as un passeport, t'as de l'argent, tu peux voyager, t'as tout ce que nous, on n'a pas et qu'on rêverait d'avoir. Et le seul truc que tu veux, c'est cette foi et cet engagement. C'est le seul truc qu'on a et c'est ça, nous, qui nous fait vivre. C'est pour ça qu'on avance et que c'est ça qui nous fait tenir encore. Ça, c'est lui qui avait dit ça. Et puis son petit frère à côté avait dit « Oui, enfin, c'est ça qui nous fait vivre, mais c'est aussi pour ça qu'on meurt. » Enfin, revenir en Bretagne à chaque fois, après ça, c'était toujours un peu compliqué. Les conversations, c'est la soirée du week-end dernier, puis la fête du week-end prochain.
On parle d'enfants. Moi, je connais ma situation. Je ne voulais pas avoir un enfant en tant que barman. Un barman rentre à la maison à 2h, à 1h, à 3h du matin, ne voit pas son enfant la journée, parce que la journée, le barman dort. C'est pour ça que je voulais, avant de faire un enfant, je voulais arrêter de voir, reprendre les études vraiment, et commencer une vie normale et avoir une situation stable. La vie a fait ses choix, ma copine tombe enceinte au mois de septembre. J'avais encore mon appart et là je déménage totalement, on déménage chez elle parce qu'elle avait un appart plus grand que le mien. Et voilà, et la petite était censée venir en juin, le 2 juin, mais elle a décidé de venir un peu plus tôt, elle est arrivée le 16 avril. Donc on est bien contents tous les deux, tous les trois. Et après, on se marie en septembre 2022. On s'est mariés une fois que la petite avait un an et demi. Ça fait un engagement sur le papier, mais bon, on n'a pas besoin vraiment d'un papier pour montrer qu'on est amoureux ou pour montrer qu'on est engagés tous les deux. Mais pour officialiser un peu plus les choses aussi vis-à-vis à la République française et tout.
Cher vous, cher toi que j'ai aimé très fort, je voudrais te dire, j'y ai cru. Je savais pourtant que je te connaîtrais jamais vraiment, parce que la plus grande partie de ta vie me resterait inconnue, parce que j'ai jamais vu la mort de près, parce que j'ai jamais fait de prison, ni la révolution. Ça dure comme ça pendant un an, et puis on a l'idée de... Enfin, avec des amis en Bretagne, on avait l'idée d'organiser un festival de soutien aux prisonniers et prisonnières politiques en Turquie, et de montrer son film à lui, et qu'ils viennent pour en parler. Du coup, on fait la demande de visa au nom de cet asso culturel. Son idée, c'était vraiment pas de rester en France, hein, c'était de retourner en Turquie, enfin, c'était même pas une question. C'était un projet qui nous excitait un peu tous les deux. Et puis, il n'a pas eu son visa. Et donc, il a dit, en fait, tant pis pour la France, quoi. Si je ne peux pas venir, ce n'est pas grave. Je vais changer mes plans et je vais retourner faire un film dans le nord de la Syrie. C'était la guerre déjà depuis un moment là-bas. Et puis, mais du coup, je suis allée en Turquie une dernière fois. On me dit, tu veux y aller, vas-y, c'est ton boulot. C'est ça que tu veux faire et que tu dois faire, vas-y. Mais attends, j'arrive... Avant de partir, je viens te revoir, quoi. Et donc, j'y suis allée. Et deux jours après, je pense, à peine, lui était en train de finir plein de trucs, encore un autre film et tout. Et un matin, la police est arrivée. Donc, il l'embarque, lui, à cause d'un documentaire qu'il avait fait. Et que, de toute façon, c'était une période où le régime turc s'attaquait à tous les opposants. Et là, c'était la période des réalisateurs. Ça marchait un peu comme ça, comme par profession, quoi. Il y avait la liste des journalistes, la liste des réalisateurs, et puis à un moment, il venait embarquer, quoi. Et moi, je ne pouvais pas vraiment me défaire de l'idée que c'était de ma faute, parce que ça coïncidait beaucoup trop avec sa demande de visa, qui avait été refusée, et qu'au même moment, deux autres personnes qu'on avait invitées au festival se sont elles aussi fait arrêter. Je suis restée en Turquie jusqu'à ce qu'ils sortent. C'était juste une garde à vue, quoi, le temps d'attendre. Enfin, garde à vue et assignation à résidence. Quand il est sorti, on n'a fait que se prendre la tête. On n'a fait que se prendre la tête parce que lui était démoli. Enfin, tous ses projets étaient tombés à l'eau. Et tout le monde faisait que lui dire « Mariez-vous, pars avec elle ». Tout le monde me faisait que me dire « Emmène-le », comme si c'était super simple, tu vois. Et lui refusait toujours cette idée de partir.
C'était pas une option possible pour lui, mais ça aurait été une option possible pour toi ?
Bah oui, moi à ce moment-là, j'étais prête. J'étais, franchement, si tu veux, on se marie, si ça peut te protéger. Enfin, tout était bon à prendre pour le sortir de cette merde. Lui, il voulait pas du tout quitter son pays parce qu'il avait une famille, qu'il était de toute façon coincé là parce que trop de gens à charge et trop de responsabilités. Et puis en même temps, moi j'étais là en vacances et j'avais envie de passer du bon temps avec mon mec, quoi. Enfin, ça collait plus du tout nos deux réalités. À ce moment-là, on fait des... lui, clairement, me disait, en fait, là, j'ai plus du tout la tête à penser à notre histoire d'amour, en fait. C'était un truc de vacances qui restait un truc de vacances. C'était fort, c'était beau, mais là, j'ai d'autres problèmes. Donc, c'est vraiment accessoire, quoi. Moi, cette histoire, elle avait rempli énormément de ma vie. Je savais tout sur la géopolitique turque, j'avais appris le turc, je me voyais aller vivre là-bas. Cette relation, elle avait changé beaucoup de choses dans ma vie. Évidemment que pour lui, c'était pas le cas. C'était le grand écart, quoi. Moi, j'étais une touriste, et lui, il était un terroriste, en fait. Et j'ai fini par partir et puis j'ai pas eu de nouvelles après de lui pendant plusieurs mois, quoi.
Chère Charlotte, depuis notre rencontre, ma vie est devenue une belle aventure. Dans ce monde aujourd'hui où il y a les frontières qui se ferment, nous avons construit un foyer qui transcende les frontières. Ben, malgré le décalage qu'il y a entre nous, on arrive quand même à dépasser les difficultés du quotidien. Je voudrais exprimer la gratitude et l'amour qui habitent mon cœur.
Pour moi, ici, je suis un étranger, je reste toujours un étranger. Et ma compagne, c'est son pays, son entourage. Ce que je dis, hein, peut-être j'ai tort, un étranger, il faut qu'elle travaille sans arrêt pendant 10 ans pour qu'elle ait une situation égale à un Français ou une Française de base. Elle gagne bien sa vie en tant que maîtresse de conférence à la fac, fonctionnaire, elle n'a pas des inquiétudes financières, elle a sa famille ici, si jamais un jour elle ne peut pas payer un loyer, elle peut juste dire à ses parents, elle peut me faire un petit virement. Moi, c'est le contraire. Mon père, elle ne travaille plus depuis que la guerre a commencé. Et j'ai 3 frères et une sœur, je suis l'aîné, donc je suis le responsable de la famille aujourd'hui. Surtout mon père a fait un AVC en 2017, elle n'est plus comme avant.
Donc tu donnes de l'argent à la famille ?
Oui. Moi, j'aide ma famille autant que je peux. C'est pour cela aussi, une fois que j'ai eu les papiers des réfugiés, j'enchaînais les travaux. Je faisais 4 travaux en même temps. J'étais barman, j'étais prof de langue arabe, je faisais des traductions en auto-entrepreneur. J'étais assistante d'artiste qui fait de sculpture et peinture, mais vraiment en même temps, et même gérant d'un Airbnb. En gros, voilà, je ne m'arrêtais pas afin de, parce que travailler comme barman, j'ai le SMIC. Avec le SMIC, je peux payer juste mes factures, vivre un peu correctement. Mais tout ce qui était de plus, c'était pour ma famille. Mais pour ma compagne, elle n'a pas cette angoisse, elle n'a pas cette insécurité. Donc ouais, ça crée des tensions, nos façons de réfléchir, nos façons des angoisses. Par exemple, moi, je peux un peu faire gaffe à mes dépenses, un peu plus qu'elle. Parfois, je dis que je la reproche qu'elle ne fait pas gaffe à ses dépenses. Et parfois, il y a une réponse que je n'aime pas trop. Elle me dit « je gagne bien ma vie, je m'en fous ». Justement, ça me heurte un peu quand j'entends cette phrase. Ce n'est pas parce qu'on gagne bien nos vies ou bien on a assez d'argent qu'on va juste dépenser ça comme ça. De deux, ça me fait rappeler aussi à cette réalité, hein, qu'on est différents. Je sais pas, elle gagne 4 fois ce que je gagne, par exemple. Et en plus, je trouve que c'est un argument un peu débile. Ça veut dire, je gagne bien ou bien je gagne plus que toi, donc tu fermes ta gueule. Elle ne veut pas lui dire ça, mais ça veut dire que j'ai pas le droit d'argumenter. Parce que toi, tu gagnes bien ta vie, parce que moi, non. Donc ça fait ça. Et en même temps, pour acheter du lait pour la petite ou pour la maison, j'ai besoin de dire à Charlotte, est-ce que tu peux me faire un petit virement ? J'aime pas ça. Elle, ça la dérange pas du tout. Elle, au contraire, parfois elle me propose de me faire un grand virement. Je dis non, je veux pas. Je veux juste ce qui est essentiel pour pouvoir acheter ce qu'il faut. Aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Je fais data analyse. Je suis formateur en data. En tant qu'auto-entrepreneur, à moi, on bosse, on gagne bien, mais à moi, pas trop. À moi, pas du tout. Donc voilà, mais ça, c'est cette inégalité financière. Je me sens parfois handicapé. Et même si, pour Charlotte, elle pense, non, la vie, c'est ça, qu'on est une seule personne, en fait, que j'apprécie beaucoup. Mais je n'arrive toujours pas. Je m'en fous qu'elle gagne plus que moi et tout ça. Mais le fait que je gagne vraiment pas beaucoup, pas assez pour moi, pas assez pour mes deux familles, ma famille au pays et ma famille ici.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu donnes encore de l'argent à ta famille ?
Oui. Je remercie Charlotte. Elle m'aide beaucoup en ça. Parfois même, c'est elle qui fait le virement à ma famille. C'est même elle qui m'a fait le virement. Elle m'a dit, vas-y, envoie ta famille à chaque fois qu'on a un truc. Ma grand-mère malade, mon frère qui se marie, ça se fait pas ce que je donne moi, donc c'est elle qui m'a fait des petits virements, que j'aide ma famille. Et je la remercie beaucoup. C'est ma situation qui m'amène à une situation de démunie. Parce que moi, je ne veux pas qu'elle m'aide. Ça me rend fou, parfois. En fait, comme je vous ai dit qu'un étranger vient ici, qui n'a rien, c'est pas vrai qu'il n'a rien. Il a quelque chose. La seule chose qu'il a, c'est sa fierté et sa dignité. Et si sa fierté et dignité, elle est écrasée, il est terminé pour moi. Moi, dans toute ma vie, j'avais que ça. Quand je me sens que je sois aidé ou assisté, ça me fait pas du bien. Ça me touche ici, peut-être dans mon ego, dans ma fierté, dans ma dignité. Et ça réveille un monstre, on peut dire. Ça réveille quelque chose qui n'accepte plus rien, hyper braqué. Elle voit très bien ça, je pense. Elle comprend. Non, c'est quelqu'un de très intelligente. Et donc, elle comprend. En plus, voilà, moi, je vois une psy depuis que maintenant quasiment 2 ans. Et c'est Charlotte qui m'a encouragé de voir une psy. Parce qu'avant ça, je pensais que c'est débile de voir une psy. C'est juste un privilège des aristocrates et des bourgeois d'aller voir une psy. Parce que ça sert à quoi d'aller dépenser 50 € ou un truc comme ça juste pour raconter nos conneries à nous. Mais j'avoue, là, après, je pense que ça m'aide beaucoup, le fait que je vois une psy. Et je pense aussi le fait que j'arrive à parler avec vous maintenant, vous raconter tout ça, c'est grâce aussi à la psy.
Comment je rebondis après ça? Mais je viens m'installer à Marseille et puis je découvre que Marseille, c'est, en tout cas moi, ça me fait l'effet quand j'arrive d'être un peu le juste milieu entre la Bretagne et la Turquie. Je peux continuer à parler turc. Il y a une grande, grosse communauté kurde ici. Je peux continuer à avoir l'impression de militer ou de faire des choses, mais en étant à mon endroit et sans mettre plus personne en danger. Du coup, j'étais à Marseille, mais je faisais toujours des allers-retours en Bretagne. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Zayn. Zayn, c'était un journaliste syrien qui était accueilli par l'association pour laquelle je travaillais avant. Il était en France depuis 6 mois, je crois. Donc il parlait quand même bien français pour quelqu'un qui est là que depuis 6 mois. Et il attendait d'avoir ses papiers. Enfin, à l'époque, c'était assez certain que toutes les personnes qui venaient de Syrie avaient l'asile. Ses papiers, c'était une question de temps, et lui était hyper enthousiaste d'être là, et en même temps son esprit tout le temps en Syrie ou en Turquie, où il avait passé du temps avant. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait cette fête-là, qu'on a fini par passer la nuit ensemble, et que ça aurait pu s'arrêter là, et que ça s'est pas arrêté là, et que ça a duré après beaucoup plus longtemps, mais qu'à aucun moment c'était pensé ou réfléchi comme... Construisons une relation de longue durée. Vraiment pas.
Coucou, ça va? Mais moi aussi, j'aime pas Paris, tu sais. Mais ouais, peut-être c'est autre chose avec toi. On n'a jamais allé ensemble à Paris. On essaye ça un jour. Et ouais, et maintenant je marche, je vais essayer de dormir un peu. Je sais pas, je vais voir. Mais j'ai fini. À bisous!
C'est quelqu'un de très beau. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, même s'il parle pas très bien français, il parle beaucoup. La relation, elle est à distance. On s'écrit beaucoup, on s'appelle beaucoup. Moi, du coup, à ce moment-là, je m'intéresse, comme j'avais fait avant, mais je m'intéresse beaucoup à la Syrie. Je dévore tous les livres que je trouve, j'essaye de comprendre. On se retrouve aussi beaucoup là-dessus. Il s'anime quand il parle de la Syrie directement. Et moi, je vais chercher ça aussi. Des histoires, des anecdotes qui me nourrissent vraiment, qui sont concrètes. Ça veut dire quoi quand t'as 20 ans, s'endormir avec un pistolet sous l'oreiller? Ça veut dire quoi penser que tu vas mourir tous les jours? Ça veut dire quoi Oui, je pense que moi, je représente pour lui aussi la promesse d'une nouvelle vie en France et que lui représente pour moi la promesse d'un ailleurs qui me fascine.
Je ne suis pas exotique pour Charlotte. Si je peux utiliser ce terme. Je ne suis pas exotique, je suis pas un ailleurs inconnu pour Charlotte. C'est une femme intelligente, s'intéresse à plein de choses, donc elle connaît beaucoup sur mon histoire, sur l'histoire de mon pays, donc je ne représente pas ça pour elle.
Tu commences à être comme moi. Tu n'aimes pas tout, Mais tu aimes les lunes. Je t'embrasse beaucoup. Bisous.
En Syrie, il y a encore sa famille et ses amis proches. Lui, il s'est engagé dès le début, dans la révolution, dans les manifs, en travaillant dans des organisations. Il a été très actif, il a pris beaucoup de risques, comme tous les autres, et il y a vraiment cru. À un moment, il quitte le pays parce qu'il est en danger de mort. Mais il est très inquiet pour les gens qu'il a laissés derrière et puis pour sa famille. Au début, politiquement, dans mes souvenirs, et puis après, simplement pour leur survie, parce qu'aujourd'hui, manger, dormir, se soigner, communiquer, se chauffer, avoir de l'électricité, tout ça est très compliqué dans ce pays. Il y a des choses comme ça qui font partie du quotidien. Envoyer de l'argent là-bas, monter des projets avec les copains qui restent sur place pour essayer de faire quelque chose. En fait, être en relation avec lui, c'était comme être en couple à trois, quoi. Il y avait lui, moi et la Syrie. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Alors que t'es en train de partager un moment hyper tendre, intime et presque érotique, le téléphone sonne et lui va décrocher. Parce que c'est quelqu'un de sa famille et que donc c'est peut-être qu'il y a eu un problème ou qu'il n'y a pas du réseau tout le temps, donc il faut décrocher. C'est des petits trucs du quotidien qui font que tu t'aperçois qu'en fait t'es pas la priorité, quoi. L'instant présent n'est jamais la priorité. La priorité, c'est les 25 ans d'avant et tout ce qui s'est passé et tous les gens que t'as laissés derrière et ce passé-là qui te rattrape, quoi.
Coucou, je trouve le CV. Mais je vais ajouter les choses, les autres informations et des choses. Je vais le traduire et ajouter sur le CV. Modifier le CV. Ça va toi? Appelle-moi.
Enfin, au début, moi, j'ai pas du tout envie de m'occuper de ses papiers. Et ça, c'est très clair entre nous que lui a pas du tout envie non plus que je m'occupe de ses papiers. Il est pas du tout demandeur de ça. Et il a très envie de se débrouiller tout seul et d'y arriver. Parce que je sais que c'est tu l'amour, quoi. Et lui est... Non, mais en fait, je te demanderai jamais de m'aider pour les papiers. Si j'ai besoin d'aide, je demande à quelqu'un d'autre. Mais je te demanderai jamais à toi. Ça, c'est très clair et hyper sain. Vraiment. Mais il y a un moment où tu te retrouves à faire quand même. Et ce moment, je me rappelle hyper bien. Quand je dis un moment, c'est... Il y a juste un moment où il est hyper déprimé parce qu'un de ses meilleurs amis vient de se faire arrêter, donc ça va pas du tout. Et du coup, à ce moment-là, le seul truc que tu peux faire pour le soulager de sa peine terrible, c'est peut-être prendre les à côté. Et donc, c'est son inscription à la fac ou... À un moment, prendre le relais là-dessus parce que ce qu'il traverse est déjà super lourd. Moi, j'étais très demandeuse de l'aider aussi. Enfin, ça me dérangeait pas du tout de lui donner de l'argent. Mais ça a toujours été que des prêts. Et il y tenait vraiment énormément.
Après, l'inégalité administrative, c'est un truc que je le vis tous les jours. J'ai attendu 3 ans pour avoir ma carte vitale. Et aussi, pour avoir un visa pour aller en Égypte, moi, j'ai attendu longtemps. Ma femme et ma fille ont attendu peut-être 1 mois. Mais moi, j'attends beaucoup plus que ça, 3 mois. Il y a cette inégalité de papier, cette inégalité... Même parfois, hein, bon, dans des démarches qu'on veut à la maison, je dis à Charlotte, bah, je te laisse appeler toi, t'as pas d'accent, t'es une femme, ça va mieux se passer. Je sais pas, un truc d'électricité, un contrat d'internet. Ou... À chaque fois qu'on a une démarche administrative, un email ou peu importe, on passe par Charlotte. Et l'autre chose, c'est moi. Quand on a, on va dire, par exemple, porté des choses, c'est moi qui porte, qui fait les courses ou peu importe. Donc voilà, on divise les tâches un peu comme ça. Donc c'est cette inégalité administrative. Ça me fait rappeler à quel point je suis un étranger, à quel point je resterai toujours un étranger. Tout est plus facile pour elle que pour moi. Et moi, si je veux une facilité, je passe par Charlotte. Quand je fais la demande d'asile, je suis allé à 4 heures du matin, mais ce jour-là, ils ont pris que 22 personnes et moi, j'étais numéro 24. Donc, je reviens le lendemain. Et donc, le lendemain, j'ai dormi là-bas. Je suis allé là-bas à 23 heures. J'étais déjà la troisième personne. Ça, je pense, Charlotte n'a jamais vécu ça. Elle comprend, parce qu'elle était beaucoup en contact avec des réfugiés, avec des gens sans papier et tout ça. Elle est militante, elle aide beaucoup dans des assos et des migrants et tout. Et elle comprend ce que c'est, elle voit ce que c'est, mais elle ne l'a pas vécu. On peut comprendre des choses, mais sans les vivre, c'est pas pareil. Par exemple, voilà, il y a des hommes qui disent « Ouais, l'accouchement, je comprends que c'est dur. La grossesse, je comprends que c'est dur. » Mais en fait, mec, tu ne l'as pas vécu. On t'a raconté, tu ne l'as pas vécu.
Cher toi que j'ai aimé très fort, je savais que je te connaîtrais jamais vraiment, et puis j'ai oublié. Et je t'ai aimé comme si on pouvait construire quelque chose ensemble. J'ai oublié que tu n'étais là qu'à moitié, que ton corps porte des cicatrices et ta mémoire des fantômes, alors que la mienne est lisse. J'ai pensé que c'était pas grave. J'ai pensé que c'était pas grave puisqu'on aimait tous les deux réparer des choses cassées, dormir à la belle étoile et regarder les gens passer. Faire du vélo, de la mobilette, des cueillettes. J'ai pensé que c'était pas grave puisqu'on faisait partie de celles et ceux qui se préoccupent du monde et essayent à leur manière d'y changer quelque chose. Tu vois, je savais qu'on se connaîtrait jamais vraiment et j'ai voulu l'oublier. On a voulu tous les deux, je crois, arrêter d'y penser. C'est revenu comme un boomerang. Des engueulades dans la voiture, des coups de pied dans les murs. De tout ça, je ne veux garder aujourd'hui que la joie qu'on a réussi, ensemble, à se fabriquer. Cher toi, que j'ai aimé très fort, je voudrais te dire merci pour tout ce que tu m'as appris. Il y a plein de choses qui ont fait qu'on s'est éloigné. Plus je témoignais mon amour, ou plus j'avais envie de l'aider, ou plus j'étais dans le don, plus il y avait un effet miroir et qui se voyait comme une personne qui n'avait rien à donner. En tout cas, plus ça le renvoyait à sa situation ici dans ce pays, qui est une situation dans laquelle il n'avait rien à donner. Moi, je l'ai emmené voir tous les endroits que j'adore, il a rencontré les gens que j'aime, ma famille. Et ça, l'inverse, c'était évidemment pas possible. Jamais j'allais rencontrer ses parents, jamais il allait pouvoir faire plus que me décrire son endroit préféré en Syrie. Je me rappelle une fois, je faisais les vendanges, et lui, il avait été accepté à la fac, finalement, dans la ville à côté. Et il venait d'arriver. C'était le mois de septembre, quoi. Et il était hébergé chez un cousin à lui, dans une chambre du Crous, toute petite. Et du coup, on n'avait pas d'endroit où se retrouver. Et donc, j'ai dormi à l'auberge de jeunesse. Et ça, ça l'a rendu malade. Mais ça l'a mis dans une colère noire que j'ai mis du temps à m'expliquer. De ce truc de, en fait, elle vient me voir et elle est obligée de dormir à l'hôtel. C'est hyper violent. Ça a été hyper violent pour lui. Enfin, il aurait préféré que je vienne pas du tout. Et pour moi, c'était pas entendable qu'il préfère que je vienne pas. Il traversait aussi une période où il se reconnaissait plus, où il se reconnaissait pas. C'était quelqu'un de très actif et de très aimé d'où il venait. C'est quelqu'un de flamboyant. Et puis là, ça l'était plus du tout.
Qu'est-ce que tu trouves dans ta relation avec Charlotte? Qu'est-ce que ça t'apporte?
J'apprends plein de choses. Déjà, un truc visible, c'est mon niveau de français qui s'améliore tous les jours. Au début, elle hésitait de me corriger. Elle voulait pas trop, mais moi, j'insiste qu'elle me corrige. Donc voilà, déjà ça. De deux, c'est pas un truc que je veux, tout ça, mais... C'est un peu plus stylé toujours d'être un étranger qui est marié à une Française qu'un étranger qui est marié à une étrangère. Même moi, j'ai vu ça dans les boîtes où j'ai bossé. J'ai bossé dans une boîte où on est 16 000 employés. C'est une boîte de bâtiments de travaux publics. J'étais data analyst chez eux. Et dès que, au début, je vois des regards un peu bizarres, je suis la personne basanée dans une boîte où il y a que des blancs. Et dès qu'ils voient que je mange de porc, je bois d'alcool avec eux et tout ça, et quand on me parle des familles, je dis que voilà, je suis avec une Française, le regard change. Donc ça fait ça, ça fait la personne un peu stylée, t'es basanée mais pas comme les autres.
L'inconfort, il venait aussi du fait que moi, je communiquais très peu quand ça n'allait pas, parce que je me sentais pas du tout légitime à avoir des problèmes. Et puis quand j'étais très mal et très triste de la relation, parce que je sentais qu'on n'était plus du tout au même endroit à la fin. Je pleurais, il s'énervait. Ou quand je devais partir et que je savais pas quand est-ce qu'on allait se revoir, c'était... Mais t'es en train de faire un drame plus que ma copine quand je suis partie de Syrie. Tes problèmes, ils ont pas le droit d'exister, quoi. Tu finis par t'excuser d'exister. Pour lui, c'était très compliqué de me voir triste. C'était vraiment extrêmement violent de dire à chaque fois « En fait, je me rends compte que je suis même pas capable de rendre heureuse la personne que j'aime. » Lui formulait ça comme ça, vraiment. Tu finis par vraiment arrêter de t'autoriser la légèreté. En tout cas, moi, je suis passée par là, quoi. Quand j'étais avec mes potes, je me faisais chier. Enfin, et en même temps, je trouvais absurde qu'ils arrivent à rire alors que tout le monde s'en fout de ce qui se passe en Syrie. Ouais, évidemment, tout le monde. Enfin, mais je leur en voulais pour ça, donc j'arrivais plus à être bien. Ou quand je passais des moments joyeux, je m'en voulais parce que je savais qu'au même moment, lui, il était dans sa coloc en train de galérer avec ses trois boulots plus la fac, et que donc lui, il n'était pas, et donc je m'en voulais, moi, de me profiter alors que j'imaginais que lui n'était pas heureux. Ouais, j'ai perdu la légèreté, ouais.
Je découvre vraiment la France. Les classiques des films, des chansons, ou autres, ou même les repères de la jeunesse de mon âge. Parfois, je me trouve avec des jeunes de mon âge, des Français, et elles parlent des BD, ou bien des dessins animés, ou bien des trucs de carton, où j'ai pas la ref. Donc là, avec Charlotte, parfois, j'ai la ref. Je peux continuer des conversations avec les gens, me sentir exclu. Au niveau personnel, moi, ça me rajoute plein de connaissances, plein des choses que j'aurais jamais appris si jamais j'étais avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas parce que seulement il est française, c'est parce que c'est Charlotte.
On a fini par se séparer parce que on se faisait trop de mal, que moi je riais plus et que lui était aussi très malheureux de me voir comme ça. Ce qui me rendait triste, c'était, je pense, l'idée que pour moi cette relation était devenue très centrale dans ma vie et que dans la sienne, évidemment, elle l'était pas, ou moins. Je pense pas que ce soit des histoires impossibles. Je pense qu'elles sont plus compliquées, mais je crois pas qu'elles soient impossibles. La preuve, il y en a qui fonctionnent, plein, et tant mieux. Et ces histoires-là qui marchent, elles sont belles parce qu'elles ont dû surmonter quand même vraiment beaucoup de défis, je crois, plus que les autres.
Cher Sama, à toi, ma lumière en France. Depuis que tu es née, chaque jour à ton côté est un trésor. Maman est française et papa vient du Moyen-Orient. Et toi, tu es le mélange parfait. Depuis que tu es né, j'ai l'impression d'avoir de nouvelles ailes qui m'aident à voler plus haut. Je suis fier d'être ton papa et j'ai hâte de voir la personne extraordinaire que tu deviendras. Tu es 100% française et 100% du Moyen-Orient. La vie est pleine d'aventures et de leçons. N'hésite pas à apprendre une nouvelle chose chaque jour, car le jour où on ne l'en apprend pas est un jour perdu, comme disait mon père.
Ma fille, je suis très content, c'est une chance. Pas tout le monde qui l'a eu, mais je pense que c'est une chance d'avoir deux parents de cultures différentes.
C'est pas juste parce qu'on vit dans un monde de merde.
Parce que tu veux les sauver.
C'est parce que t'as plus confiance en toi. T'es pas militante, t'es pas mère Teresa.
C'est le seul moyen que t'as trouvé pour que les gens
ça te valorisent.
C'est parce que t'aimes les pauvres ténébreux.
C'est parce que ça te fait relativiser. C'est pour expier ton héritage colonial.
J'ai pas compris, c'est quoi en fait ton problème?
Mes problèmes sont ceux des gens que j'aime.
Oui, bah du coup, c'est pas les tiens. Pourquoi je me mets dans ces situations-là? Soit parce que je suis complètement maso, soit parce que ça m'apporte aussi beaucoup, parce que ça me fait rencontrer des réalités qui sont radicalement différentes et que c'est forcément très enrichissant. Et parce que je me sens au bon endroit à essayer de rééquilibrer un peu l'injustice de ce monde, ce qui est extrêmement prétentieux et extrêmement fatigant, parce que évidemment que tu peux pas porter tout le poids du monde sur tes épaules et que tu vas rien résoudre. Mais il faut prendre un peu sa part de la galère dans laquelle sont les autres. Ces dernières années, elles ont vraiment pas été faciles quand même. Et je pense que ça m'a mis beaucoup de temps pour de nouveau m'autoriser à rire et à être à m'autoriser la légèreté et le confort. La preuve, là, je viens de déménager, tu vois, pour la première fois depuis 4 ans, j'habite avec des personnes françaises qui n'ont ni problème de visa, ni problème de trauma, ni problème de thunes. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, déménager, j'aurais considéré ça comme une trahison. Et là, pas du tout. Enfin, je peux exister de manière utile sans souffrir. Aujourd'hui, je pense que la joie, c'est une grande résistance. Qu'en fait, c'est le meilleur moyen de lutter et la meilleure preuve qu'on a encore un peu une prise sur le monde.
Ça nous prouve qu'il n'y a pas que des racistes qui ne veulent pas de nous, qu'il y a quand même des gens qui nous acceptent tel qu'on est, qui deviennent fous et au foie amoureux et amoureuses de nous. Ça rassure que ça existe. Ça me rassure. Et ça donne de l'espoir.
Vous venez d'écouter un épisode de Postscriptum, le podcast qui propose de renouer un nouveau dialogue. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter Cher Pays, un épisode en 2 volets dans lesquels Fanta et Abdelkader nous racontent leur histoire, eux qui ont quitté leur pays dans l'espoir d'une vie meilleure en France. Vous pouvez écouter Postscriptum sur toutes les applis de podcast ou sur notre site internet. On est aussi sur Instagram, Facebook et Twitter. Un grand merci pour votre soutien et à bientôt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.